Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
Bonjour à tous, c'est parti pour l'Intégral Sport. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de direct le week-end, le samedi et le dimanche après-midi. On va se régaler tout au long de la saison et même dès cet après-midi avec, en attendant le rugby et la reprise du top 14 la semaine prochaine, et bien pas mal de Ligue 2 tout à l'heure avec le coup d'envoi à 15h de deux rencontres de la cinquième journée qui vont opposer d'un côté Bordeaux à Guingamp et de l'autre Metz à Dijon. On s'intéressera également à Saint-Etienne après l'écrasante défaite la semaine dernière. Saint-Etienne qui se déplace à Valenciennes. Ce sera un peu plus tard dans l'après-midi. On parlera également de Ligue 1 parce qu'il y aura deux matchs aujourd'hui en attendant le reste des rencontres demain. Auxerre-Strasbourg, ce sera à 17h. Et puis un peu plus tard dans la soirée, Lens-Rennes. Et puis également au programme du basket, on vous parlera de Bosnie-France, match comptant pour les éliminatoires du championnat du monde qui aura lieu également ce soir. Morgan Mori viendra nous en parler. On évoquera aussi dans un instant la Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique et les qualifs qui auront lieu tout à l'heure. D'envoi à 16h à suivre évidemment avec Jean-Luc Roy qui sera avec nous dans un instant. Voilà l'essentiel du programme. On va commencer par le premier direct de cet après-midi. Il concerne le cyclisme et oui, la Tour d'Espagne cycliste avec la 8e étape aujourd'hui de cette Vuelta. On est avec Johan Bredov pour nous en parler. Salut Johan.
Salut Christophe, salut à tous.
Avec un maillot rouge. Maillot rouge, c'est l'équivalent du maillot jaune, mais c'est sur le Tour d'Espagne. D'ailleurs, avant, c'était le maillot à Mario, hein, sur le Tour d'Espagne. Ça a changé il y a quelques années. Oui. Et désormais, c'est rojo, c'est rouge. Et c'est sur les épaules d'Evenepoel, un Belge.
Exactement. Et les épaules de l'ancien footballeur, Evenepoel, hein, qui était un très bon footballeur dans sa jeunesse. Et là, il est maillot rouge. Il a fait réalisé une démonstration lors de la 6e étape. Alors, il ne l'avait pas remporté. Hein, c'est Jevine qui l'a remporté, mais il a fait 2e. Il a mis 1 minute et 22 secondes sur Primoz Roglic. Donc voilà, c'est dire à quel point Evenepoel est en pleine forme et à quel point il a envie de remporter le premier grand tour de sa carrière, lui qui a gagné Liège, hein, Liège-Bastogne-Liège cette année, ainsi que la Classica San Sebastian. L'Espagne lui réussit bien. Là, il est maillot rouge. Il possède 21 secondes d'avance sur Rudy Mollard, qui est toujours là, le Français.
Et oui, porteur du maillot de leader durant une seule journée, mais bon,
exactement.
Ça a été quand même un beau moment pour lui.
Voilà, il l'a pris lors de la 5e étape, il l'a perdu le lendemain. Henrik Maas qui s'était accroché est là aussi à 28 secondes et Primoz Roglic donc à 1 minute et 01 seconde exactement. Donc voilà, Evenepoel qui est dans le peloton, la Quick-Step qui roule, qui essaie de contrôler un petit peu cette échappée qui s'est formée. Je vais vous dire les noms dans quelques instants, mais on va raconter un petit peu ce qui s'est passé au début d'étape. Beaucoup d'attaques, dont une de Richard Carapaz, lui qui a été décroché lors des étapes précédentes. Là, il a voulu refaire un petit peu son retard, la Quick-Step a dit non, non, on va pas te laisser, t'es très bien à 3 minutes au général. Donc voilà, ça a roulé et finalement Carapaz s'est relevé et l'échappé a pu partir. Il y a de très jolis noms, Alexei Lutsenko, Mikel Landa, Renta Ramae, Lucas Hamilton, Mats Pedersen et ensuite un duo de vainqueurs d'étape d'ailleurs, Marc Soler et Jevine. Donc il y a un Français qui est parmi ce groupe en tête, c'est Bruno Armirail de la FDJ, coéquipier de Thibaut Pinot. Et Thibaut Pinot, qui est derrière, qui est parti en poursuivant avec Sébastien Rechenbar, le Suisse, pour essayer de rattraper ce groupe. Donc pourquoi pas.
En chasse-patate,
donc, oui, à 1 minute de ce groupe. Pourquoi pas un coup de la FDJ, donc, avec Thibaut Pinot, qui a envie d'aller chercher une très belle victoire d'étape.
Exactement. On sait que Thibaut Pinot a tenté de protéger le maillot rouge de Rudy Mollard l'autre jour. Désormais, il n'y a plus de maillot rouge. Donc Thibaut Pinot va pouvoir s'en donner à cœur joie, essayer d'aller chercher une victoire d'étape. Mais enfin, il ne va pas rouler non plus sur son équipier Armirail qui se trouve à l'avant de la course. Hein,
donc ouais, mais Armirail, je pense
qu'ils sont à combien d'avance? Ils ont combien de...
Alors, ils ont 1 minute d'avance, il me semble, sur ce groupe, sur le groupe Thibaut Pinot Rechenbar, et 1 minute et 15 secondes sur le peloton. Est-ce que Armirail roule derrière? J'ai pas les images. Roule devant, par contre, j'ai pas les images.
Il attend peut-être son leader.
Mais je pense qu'il va attendre Thibaut Pinot. Évidemment, c'est la plus belle carte à jouer, et celle de Thibaut Pinot pour la FDJ.
Très bien. Bon, on suit ça tout au long de l'après-midi avec toi. L'arrivée programmée après 17h, je crois.
Oui, 17h30 à peu
17h30.
Près.
Et demain, il y aura une étape incroyable, encore une fois, avec une arrivée au sommet, en altitude. C'est ça aussi la différence entre le Tour d'Espagne et le Tour de France. C'est qu'il y a beaucoup d'arrivées en altitude pour ce mois d'août et début du mois de septembre sur la Vuelta. Tout à l'heure, Johan, 14h11 sur RMC. Outre la Vuelta, il n'y a pas beaucoup de direct encore ce début d'après-midi. Il faudra attendre donc tout à l'heure, 15h, je vous le disais, pour deux matchs de Ligue 2 et 16h pour les essais qualificatifs du Grand Prix de Belgique. On va en parler de ses essais avec notre spécialiste, notre roi à nous, Jean-Luc de son prénom. Salut Jean-Luc.
Oui, salut mon Chris, bonjour à tous.
Voilà, il a pu faire une petite sieste après s'être réveillé très tôt ce matin.
Même pas.
Oh là là, mais quel, il est incroyable. Bon, bonjour Luc, bonne nouvelle. Déjà, on va commencer par la bonne nouvelle, puisqu'on a appris tout à l'heure que le Grand Prix de Belgique était reconduit pour la saison prochaine. Il y avait une grosse incertitude. On sait que le Grand Prix de France, on en a parlé ce matin, malheureusement, ne sera pas dans le calendrier 2023. En revanche, le Grand Prix de Belgique et ce circuit mythique de Spa-Francorchamps sera encore au programme la saison prochaine. Ça a été annoncé il y a quelques heures.
Écoute, oui, on s'en réjouit bien évidemment, mais enfin, on a compris que c'était une petite prolongation, hein, alors que pour d'autres circuits, on a signé pour 10 ans, voire pour 5 ans. Là, effectivement, c'est du coup par coup. Alors, on a beaucoup et bien travaillé du côté des Belges, parce que tu le disais, ce circuit de ce toboggan des Ardennes, c'est vraiment le circuit que les pilotes préfèrent et de très très loin. Il est placé en tête par tout le monde. Un peu plus de 7 km de bonheur, de grandes courbes rapides, d'enchaînement vraiment délicat, de vallonnement somptueux. Alors on a refait une partie du tracé pour augmenter la sécurité, notamment le fameux raidillon de l'eau rouge. Tu sais, c'est au sommet de ce raidillon qu'il y avait eu ce terrible crash de Formule 2 qui avait coûté la vie à Antoine Hubert. Et puis c'est vrai qu'il y a eu plusieurs crashs qui ont été délicats. On s'en est sorti, miraculeusement. Là, on a bien dégagé, on a installé une magnifique tribune. Et puis on a installé des bacs à sable. Et moi, je trouve ça formidable parce que ça veut dire qu'une sortie de piste à certains endroits, tu restes planté dans le bac à sable. Donc les pilotes vont devoir rester sur la piste. C'est une bonne nouvelle, ça.
Ah oui, ils vont devoir attention, pas pouvoir se dégager. C'est vrai qu'il y a, sur beaucoup de circuits modernes, il y a des grandes aires de dégagement et tu peux revenir sur la piste malgré les erreurs. À Spa, l'erreur est fatale. Si tu pars dans le bac à sable, bien tu y restes jusqu'à la fin du Grand Prix.
Alors, beaucoup de temps.
Un Grand Prix, malheureusement, Jean-Luc, où les deux principaux favoris s'élanceront demain de la dernière ligne, même s'ils font un bon temps tout à l'heure dans les qualifs, hein, puisque Charles Leclerc et Max Verstappen se sont fait pénaliser parce qu'on a utilisé trop d'éléments depuis le début de la saison. Et donc, ça va durer comme ça jusqu'à la fin de la saison. On va avoir beaucoup de concurrents qui Grand Prix après Grand Prix, vont devoir partir du fond de grille.
Écoute, une nouvelle fois, je vais blâmer, critiquer ce règlement que je trouve totalement ridicule. Quand on a 7 pilotes sur 20, pour le moment, hein, mais il peut y en avoir d'autres d'ici le départ du Grand Prix, qui sont frappés par des pénalités, et tu viens de le dire, effectivement, dans les deux favoris et les deux prétendants au titre, Verstappen et Leclerc, c'est que ce règlement est ridicule. On n'accorde pas assez d'éléments mécaniques au prétexte d'économie, mais c'est pas ça la vraie raison. Donc on a effectivement, alors les places, on verra au final, hein, a priori, c'est moins 10 pour Leclerc, ce serait moins 5 pour Verstappen, ce serait moins 10 pour le chinois Zhou, ce serait moins 10 pour Mick Schumacher, moins 10 pour Valtteri Bottas. Et tu as parlé de report en fin de grille, ce serait Lando Norris également qui aurait droit à ça, Esteban Ocon serait pénalisé. Enfin bon, écoute, on va lire la grille à l'envers, hein. Alors les qualifs, ça reste un exercice merveilleux, surtout sur ce beau tracé, et surtout après, tu te souviens...
Mais ça devient illisible, ça devient complètement illisible là, avec tous ces concurrents qui vont perdre des places. Donc est-ce que malgré tout ils vont se bagarrer pour essayer de faire des bons chronos et d'essayer de partir le moins loin possible sur cette grille?
Alors oui, bien sûr, pour ceux qui prennent 5 ou 10 places, il vaut mieux évidemment signer une pole virtuelle et se retrouver 10e sur la grille. C'est toujours mieux que 12e ou 15e ou dernier, bien évidemment. Même si on peut dépasser sur ce tracé, c'est l'autre très très bonne nouvelle, il y a deux zones de DRS, il y a cette longue ligne droite qui amène jusqu'au virage des Combes où on atteint les pratiquement 340 km/h. Hein. Donc avec le DRS en course, on va certainement frôler les 350 km/h avec un freinage d'enfer au bout, tu sais que je les adore ceux-là. Et là on voit qui sont les hommes qui ont du courage, on va le dire. C'est un circuit qui demande de l'engagement, celui-là, c'est pas un simulacre. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi au sein de plusieurs équipes de changer des éléments mécaniques et de prendre la pénalité ici, parce que c'est plus simple ou moins compliqué de dépasser que ça ne l'est aux Pays-Bas dans une semaine par exemple.
D'accord, donc ça veut dire que c'est pas complètement rédhibitoire, non, ni pour Verstappen, non, ni pour Leclerc, qui vont devoir essayer de se rapprocher le plus possible évidemment de la tête de grille pour avoir moins de temps à rattraper, moins de concurrents à dépasser demain. Donc ils peuvent envisager malgré tout la victoire. On sait que Verstappen est sur un nuage depuis un bon moment maintenant. 80 points d'avance, je crois, hein, au classement des championnats du monde.
C'est ça, 258 à 178. Ouais.
On n'aura pas malheureusement cette fin de saison le même suspense qui a eu lieu la saison dernière. Hein. C'est bien dommage. On voit mal comment Charles et notamment la Scuderia pourraient renverser la situation vu le nombre d'erreurs qui ont été commises depuis le début de la saison.
Écoute, il faut qu'il redresse la barre et le mot est faible, effectivement, parce que le championnat, ils l'ont malheureusement occulté. Alors perdu, je ne sais pas, il reste 9 Grands Prix avec celui-là. C'est vrai que 80 points à gérer, tu te rends compte, c'est 3 victoires pleines, même avec le meilleur tour en course. Donc effectivement, Verstappen peut, s'il est un peu moins bien sur un tracé, ce sera peut-être le cas ici. Il n'a pas tout à risquer, il peut concéder 5, 7, 8 points par Grand Prix. Il a vraiment de la marge, et d'autant que évidemment derrière, il y a encore un trou, hein. Pérez est encore plus loin. Russell, un surprenant en quatrième devant Sainz. La Scuderia Ferrari, oui, doit absolument redresser la barre. Mais avec les pénalités techniques, on vient de l'évoquer, qui vont les frapper les uns et les autres, je crois que ça va être, oui, mission quasi impossible, il faut être clair.
Très bien. Un dernier mot, Jean-Luc, concernant un retour, enfin plus exactement, une arrivée dans le monde de la Formule 1, l'arrivée d'un grand constructeur, puisqu'on a appris tout à l'heure que Audi, c'était déjà dans les tuyaux depuis quelques semaines, que Audi allait donc faire son apparition en Formule 1 en tant que motoriste dans un premier temps. Je crois qu'ils vont équiper les Sauber, c'est ça, les Sauber qui sont pour l'instant des Alfa Romeo. Enfin, on comprend pas bien d'ailleurs, mais c'est Sauber, Alfa Romeo, Audi, c'est un mix de tout ça pour faire une bonne voiture pour la saison prochaine.
Alors voilà, pour 2026, hein,
pardon, 2026,
oui, il y a un changement, tu sais, radical de réglementation en termes de moteur, enfin radical, on essaie de mettre plus d'électrique et puis surtout des carburants synthétiques qui vont arriver progressivement en Formule 1, ça c'est très bien évidemment, et donc ça attire certains constructeurs. On a mis un cost cap également pour le prix des moteurs, donc on sait qu'Honda en revanche se retire et s'en va. Alors effectivement, cette annonce on l'attendait depuis longtemps. Alors j'ai regardé toute la conférence de presse, hein, les dirigeants d'Audi n'ont pas confirmé que ce serait Sauber, c'est très vraisemblable, tu as raison. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Alfa Romeo a annoncé la fin de son partenariat au terme du contrat, c'est-à-dire fin 2023. Donc effectivement, dans l'intervalle, eh bien, certainement on aura eu la confirmation que le motoriste Audi motorisera l'équipe Sauber, qui changera peut-être de nom. Pour le moment, on n'en sait rien. Puis on parle de Porsche, tu sais, qui venir.
Mais ce sera avec Red Bull, c'est ça, a priori, c'est ce qui se dit.
C'est ce qui se dit, absolument, c'est ce qui se dit. Porsche reviendrait en Formule 1 après les années glorieuses de McLaren avec Alain Prost et Ayrton Senna, tu t'en souviens bien sûr. Naturellement, ce serait on attend la confirmation. Les dirigeants d'Audi n'ont pas du tout voulu répondre en disant nous on est là pour Audi, nous on revient et on est là pour longtemps. Porsche fait ce qu'il veut.
Très bien, eh ben on attend de voir le retour et puis l'arrivée donc de Audi. Hein. Audi et Porsche sont quand même deux énormes constructeurs, toujours associés à Audi. Ça a surtout été sur les courses d'endurance, notamment les 24 heures du Mans. Mais là, ce serait donc la première apparition de la célèbre marque allemande dans le monde de la Formule 1. Très bien, Jean-Luc, on te retrouve donc tout à l'heure à 16h pour le début de cette séance de qualification.
Tout petit mot, si ouais, tu veux bien, pardonne-moi t'interrompre, sur les pilotes, parce que tu sais que ça a beaucoup bougé entre l'arrêt de Vettel, qui quitte Aston, qui est remplacé, la surprise générale, par Fernando Alonso, qui donc a quitté Alpine. Du coup, Alpine a annoncé qu'Oscar Piastri, le jeune pilote australien, soi-disant sous contrat arrivé, Piastri a dit non, moi je vais chez McLaren, et dans l'intervalle, McLaren a entre guillemets s'est séparé de Ricciardo. Donc voilà le jeu des chaises musicales, en une phrase.
Et Ricciardo, on sait où il va,
il va revenir chez Alpine à la place d'Alonso. Il y a de très fortes chances.
Il a quitté Renault il y a quelques temps,
oui,
comme ça.
Il y a deux saisons.
Voilà, en disant bah, je vais aller dans une écurie qui gagne, et là il reviendrait comme ça, on lui rouvre la porte. Et bien voilà, une drôle de façon de faire. Bref, on verra ça. Les nouvelles viendront d'ici quelques semaines. Merci Jean-Luc, à tout à l'heure 16h. Pour ces qualifs du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Il est 14h20 sur RMC. Dans un instant, on va parler de football avec la Ligue 1 notamment. Le premier match de cette quatrième journée, ce sera tout à l'heure à 17h entre Auxerre et Strasbourg. Aurélien Tiercien va venir nous en parler. Et puis un petit mot quand même de la Vuelta. Où en sont Pinot et les autres? Est-ce que Pinot a réussi à revenir sur le groupe de tête, Johan?
Pas encore. 30 secondes de retard pour Thibaut Pinot, qui a bien été attendu par Bruno Armirail, hein, qui s'est laissé décrocher de ce premier groupe. Il est avec donc Armirail et Reichenbach, deux coéquipiers. 30 secondes de retard sur 7 hommes qui sont en tête, des beaux noms: Jevine, Marc Soler, Pedersen, Taramae, Landa, Lutsenko, Hamilton. Et ce premier groupe d'échappés compte 2 minutes 07 secondes sur le peloton maillot rouge pour le départ Evenepoel.
Et les hommes de Evenepoel, notamment le champion du monde Julien Alaphilippe, roule en tête de peloton, mais pour l'instant il laisse ce petit groupe s'échapper avec un peu plus de 2 minutes d'avance. Il est 14h21, le foot dans un instant. Auxerre-Strasbourg, ce sera la première rencontre de cette quatrième journée.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
L'Intégral Sport, comme tous les samedis, comme tous les dimanches après-midi sur RMC, pour vous permettre de suivre tous les directs. Ils sont nombreux dès ce samedi après-midi, avec dans maintenant une petite demi-heure le début de la cinquième journée de Ligue 2. Deux matchs entre programme, Bordeaux-Guingamp et Metz-Dijon. On en parlera dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux qui vont vous faire vivre ces rencontres. On suivra également, on vous disait il y a quelques instants, les qualifs du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Et puis, le vélo, le Tour d'Espagne cycliste. C'est la 8e étape aujourd'hui. Le suspense concerné tout à l'heure, Thibaut Pinot, qui était parti en chasse-patate derrière le groupe d'échappés, a-t-il réussi à intégrer ce groupe d'échappés, Johan?
Pas tout à fait. Encore une quinzaine de secondes de retard pour Thibaut Pinot, accompagné de Bruno Armirail et de Sébastien Reichenbach. Il reste 114 km pour cette étape. Encore 5 cols. Bah voilà, il est rentré à l'instant. On n'avait pas d'infos sur l'écart, mais voilà, c'est tant mieux pour Thibaut Pinot, rentrer dans ce groupe d'échappés.
D'autant qu'il est accompagné de deux de ses hommes. Oui. Hein, c'est une bonne opération pour lui.
Qu'on a pas mal travaillé quand même depuis quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres pour le ramener. Mais voilà, il est accompagné de deux de ses hommes. Il va pouvoir rester au chaud, si je puis dire, dans cette échappée. Ne pas trop travailler parce qu'il y a du beau monde. Il faudra aller les battre. Alexei Lutsenko, Mikel Landa, Ren Taramae, Lucas Hamilton, Mats Pedersen et Marc Soler et Jevine qui, eux deux, ont déjà gagné sur cette voie. Donc Thibaut Pinot est bien dans le premier groupe et ça nous rassure, il possède 2 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton Mario Rouge.
On rappelle que c'est une arrivée en altitude avec un dernier col, ça donne quoi ce col? C'est du sérieux?
C'est le Coyo Funk Coya, 10 km de montée.
Ouais, c'est pas mal en espagnol.
Hein. Ouais, LV d'espagnol, attends, oui évidemment. 8,5% de moyenne et des passages à plus de 17% dans la dernière partie, donc voilà, il va faire très mal. On attend une explication entre les favoris, mais pourquoi pas pour la victoire d'étape pour cette échappée. Donc les plus belles chances sont évidemment pour Thibaut Pinot.
Parce que pour le général, c'est déjà d'ores et déjà fini pour Thibaut Pinot.
15 minutes de retard, oui, ça va être compliqué.
14 minutes 58, oui, 46e, c'est un petit peu mieux que Julien Alaphilippe, mais il faudra pas compter avec les Français. Peut-être avec Sivakov, qui est quand même
sixième au général, il peut faire top 5, pourquoi pas.
Pourquoi pas, Sivakov qui était franco-russe et qui est devenu franco tout seul il y a quelques semaines de cela. 14h28, à tout à l'heure Johan, on va donc prendre la direction de l'Abbé des Champs. Ben oui, c'est un bonheur de retrouver le club mythique de la JOCR en Ligue 1 qui reçoit cet après-midi le RC Strasbourg et on va vivre cette rencontre. Ce sera tout à l'heure à 17h avec Aurélien Tiercin qui est avec nous. Salut Aurélien.
Salut Christophe, bonjour à tous.
Bon, je sais pas si t'es déjà arrivé à l'Abbé des Champs ou si tu es en route.
Non, pas encore. Sur l'autoroute, ça va. Il n'y a pas trop de monde dans ce sens-là.
Oui, dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué.
Ah oui, c'est catastrophique.
On l'a entendu tout à l'heure avec Anthony. Oui, je le disais, c'est un bonheur de retrouver au CERS ce club qui a connu de grandes heures, évidemment, en Ligue 1 ou en première division par le passé, qui a donc remporté son premier match en Ligue 1 la semaine dernière depuis 10 ans, en battant Montpellier. Ben voilà, ils sont pas mal, les Auxerrois, depuis le début de la saison. Enfin, c'est assez inégal, une défaite, un match nul et une victoire, mais en tout cas, ils sont en progrès.
Bah exactement, si on voit un autre promu, l'AC Ajaccio, où c'est beaucoup plus compliqué, ça reste un promu, tu l'as dit, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas connu la Ligue 1, donc une victoire, un match nul, une défaite pour commencer la saison, c'est plutôt pas mal, voilà, 4 points. À domicile aussi, la victoire n'est pas passée loin, 2-2 face à Angers, avec une égalisation des Angevins en fin de match. Donc la JOCR de Jean-Marc Furlan qui marche pas mal pour l'instant, avec le plaisir de retrouver l'Abbé des Champs, record d'abonnés, il y a un vrai engouement autour du club. Par exemple, voilà, le dernier Auxerre Strasbourg en Ligue 1, c'était en 2007-2008. Donc c'est quasiment une autre époque du football français. Bon, le problème, c'est qu'il y aura beaucoup d'absents des deux côtés, mais notamment côté Auxerrois. Jean-Marc Furlan, je le cite, se chier dessus la semaine dernière à Montpellier. Et oui, parce que il y a eu deux cartons rouges la semaine dernière. Pour Nuno Da Costa et Mbaye Niang, ces deux avant-centres, Gaëtan Charbonnier, le troisième attaquant avec beaucoup de vécu, et lui blessé à la cheville. Donc là, va pas y avoir grand monde devant. En plus, Julien Janvier, qui est venu renforcer le secteur défensif, a une blessure à la cheville ligamentaire un peu plus longue que prévu. Il sera absent 6 semaines. Donc voilà, il va falloir mettre des jeunes devant, peut-être Sinakolo, un jeune attaquant formé au club. Jean-Marc Furlan, le sorcier de Ligue 2, qui a 5 montées en Ligue 1 à son actif avec plusieurs clubs, désormais va falloir aussi montrer qu'en Ligue 1, il a aussi des solutions pour parer à toute éventualité. Donc la JOCR qui va devoir faire sans pas mal de joueurs majeurs face à Strasbourg.
Bon, au CER, on attend du monde cet après-midi. L'abbé Deschamps sera plein ou non?
Oui, a priori ouais. on va atteindre largement les 20 000 supporters à l'abbé Deschamps pour ce deuxième match simplement à domicile. C'était déjà la grosse fête contre Angers. Donc après-midi, 17h, le soleil, le mois d'août, tout va bien pour accueillir le Racing Club de Strasbourg qui en plus va pas très très bien non plus.
Eh oui, alors Strasbourg est en Ligue 1 depuis un moment. Strasbourg avait réalisé une très belle saison la saison dernière, mais là c'est un peu plus compliqué. Toujours aucune victoire depuis le début de la saison pour les Strasbourgeois, qui eux aussi ont des problèmes d'effectifs et notamment cette période de mercato qui n'est pas encore terminée. Certaines de leurs vedettes ont des velléités de départ. Du coup, l'entraîneur strasbourgeois est obligé de jongler avec tout ça pour essayer d'aligner une équipe et ça marche pas très bien depuis le début de la saison.
Ouais, c'est ça, c'est assez flou pour l'instant. Alors Ludovic Ajorque, la star offensive, voulait partir. Ça fait plusieurs saisons qu'il enchaîne à plus de 10-12 buts en Ligue 1, mais il y a toujours pas d'offre à sa mesure. Alors Ludovic Ajorque est toujours là, mais il y a un petit peu de flou sur le front de l'attaque pour accompagner Kevin Gamero. Derrière, Lucas Perrin, Jerzinho Niamsi sont blessés, qui étaient deux piliers la saison dernière. Donc là aussi, il y a pas mal d'absents, notamment dans le secteur défensif. On peut ajouter à ça Ibrahima Sissoko au milieu de terrain. Donc Julien Stéphan qui doit un petit peu coordonner toute son équipe autour de ses absences. Alors après, il n'y a pas forcément de panique puisque les deux dernières saisons, Strasbourg n'avait pas gagné non plus lors des trois premières journées. À chaque fois, depuis la remontée en Ligue 1, Strasbourg remporte sa première victoire à la quatrième journée. Donc ce serait cet après-midi, il y a peut-être une troisième saison consécutive pour ça. Et puis du côté des mauvaises prédictions, Strasbourg gagne très très peu en déplacement. Ça fait sur les 8 derniers déplacements en Ligue 1, il y a une seule petite victoire, c'était à Brest au début du mois de mai dernier. Donc voilà, Julien Stéphan qui va quand même essayer de donner cette dynamique, réenclencher cette dynamique, parce qu'à l'image de Lens, Strasbourg était la belle surprise de la saison dernière. Ça s'est un petit peu effrité sur la fin avec la défaite 4-0 à Marseille. Il n'y a pas eu de Coupe d'Europe à Strasbourg, mais il y a quand même un effectif très intéressant. Un Mats Sels, le gardien international belge, qui est très bon dans les buts. Au milieu, il y a toujours des valeurs sûres comme Adrien Thomasson. Ça devrait être qu'une question de temps, mais en tout cas, on attend, malgré toutes les absences côté offensif au Serrois, côté défensif à Strasbourg, on devrait quand même voir une rencontre très intéressante de Ligue 1.
Ouais, Strasbourg qui est malgré tout annoncé comme favori quand même de la rencontre cet après-midi, même si Strasbourg à l'extérieur, bah, c'est vrai qu'à la maison, à la Méno, ils sont intransigeants en tous les cas la saison dernière, mais à l'extérieur, ça n'a pas été non plus extraordinaire, hein.
Bah oui, c'est ça, une seule victoire sur les 8 derniers déplacements. Donc, en début de saison, il y a quand même eu un match nul intéressant à l'OGC Nice, un partout. C'est plutôt à domicile que ça galère un petit peu côté Strasbourg cette saison. Mais voilà, le Racing Club Strasbourg a l'expérience, je le disais, devant. Donc Ajorque a peut-être la tête tournée vers Strasbourg. Du coup, il a peut-être compris qu'il allait rester aux côtés de Gamero. Il y a aussi Habib Diallo. Il y a quand même de très très belles cartouches offensives côté Racing Club de Strasbourg, ce qui en fait un favori logique face à la JOCR qui découvre la Ligue 1 et qui donc n'a pas encore gagné à domicile à l'Abbé Deschamps.
Ok, ben on va suivre cette rencontre avec toi Aurélien, donc ce sera tout à l'heure à partir de 17h Auxerre-Strasbourg. Pour l'instant c'est un duel de milieu de tableau entre Auxerre 11e et Strasbourg 14e, donc victoire pas impérative mais pas loin quand même pour les Strasbourgeois s'ils veulent éviter de se retrouver en queue de tableau, en queue de liste dans ce tableau de Ligue 1. Merci Aurélien, rendez-vous donc tout à l'heure à 17h pour ce premier match de la cinquième journée. Il y en aura d'autres et il y en aura notamment un peu plus tard dans la journée, dans la soirée, entre Lens et Rennes. Lens qui est tout simplement le dauphin du Paris Saint-Germain cette saison, qui affronte donc Rennes. Là, ce sera un match particulièrement intéressant à suivre à 21h. On en parlera tout à l'heure avec Jean Baumel qui accueille ce soir Jeannot Rességuier au stade Bollard pour cette rencontre. 14h35 sur RMC, avant de parler de la Ligue 2 dans un instant, un nouveau point sur la Vuelta, le Tour d'Espagne avec la 8e étape. Nous sommes dans l'une des ascensions du jour. On est encore loin de l'arrivée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des Français dans le groupe de tête, et pas n'importe lesquels, on l'a dit tout à l'heure, hein, Johan.
Et oui, on est à 109 kilomètres de l'arrivée exactement, on est dans l'Alto de la Moschetta, donc cette deuxième difficulté du jour. Il y en a 6
aujourd'hui, donc 4,5 km du sommet, et tu le disais, des Français avec notamment Thibaut Pinot qui est bien là, qui est parti hein, en poursuivant juste après les échappés. Il avait une minute de retard, il a bien été aidé par Bruno Armirail et Sébastien Rechaibar, ses coéquipiers, donc pour revenir sur ce premier groupe, il est bien là Thibaut Pinot, ses équipiers travaillent d'ailleurs en tête de cette échappée, mais il y a du beau monde, quand même, beaucoup de coureurs qui ont déjà gagné hein, sur la Vuelta. Je pense à Mikel Landa qui a gagné une étape déjà, Rentar Amae, c'est deux étapes, Marc Soler, deux étapes, dont une cette année, Jay Vine aussi, une étape remportée cette année, et Lutsenko pour compléter, donc ces coureurs qui ont déjà remporté une étape sur la Vuelta. Il y a Mats Pedersen également, Lucas Hamilton. Donc voilà, ça va grimper évidemment. On a beaucoup de grimpeurs dans cette échappée. Il reste encore donc l'Alto de la Moschetta, 4,2 km du sommet. Thibaut Pinot en deuxième position d'ailleurs, juste derrière Mikel Landa évidemment. Il se trompe pas de roue. Mikel Landa le mieux classé au général. 2 minutes et 52 secondes d'avance sur le peloton mené par les Quickstep, hein, l'équipe de Remco Evenepoel qui porte le maillot rouge de leader. Donc voilà, on laisse un petit peu de champ à cette échappée. Il y aura évidemment l'explication finale entre les favoris dans la dernière ascension hein, qui est très dure, plus de 10 km et des passages à 17%. Mais pour l'instant, cette échappée est bien partie. 2 minutes 55 secondes d'avance, 108 km de l'arrivée et Thibaut Pinot en tête.
Et ben voilà qui est une bonne nouvelle pour Thibaut Pinot qui avait malheureusement pour lui raté la victoire ou les victoires d'étape dans le dernier Tour de France, lui qui avait été victime du Covid quelques jours avant le départ du Tour et qui a jamais réussi à avoir la patte aussi légère qu'il l'avait les années précédentes. Donc eh bien il a décidé de faire cette Vuelta, à savoir que son équipier et leader sur le Tour de France, David Gaudu, lui n'a pas pris le départ de ce Tour d'Espagne cycliste. À noter également que Julien Alaphilippe est pour l'instant dans un rôle d'équipier, hein, celui de,
bien sûr,
du maillot rouge, donc leader Remco Evenepoel. On espère qu'il aura quand même sa chance pour aller chercher une ou deux victoires d'étape, mais là c'est des étapes
voilà, ça va être compliqué aujourd'hui, ça va être montagne, compliqué hein, pour Julien. Et puis il faudra voir aussi si Remco Evenepoel a beaucoup d'avance ou pas, et puis il faudra voir les profils d'étape. Évidemment il y en a encore qui vont convenir à Julien Alaphilippe, mais je pense qu'il se complaît aussi dans ce rôle d'équipier pour, ouais, Remco Evenepoel. S'il arrive à l'amener vainqueur du général sur la Vuelta, il sera très heureux, le champion du monde. Et évidemment, il y aura les championnats du monde après la Vuelta. Ouais. Objectif majeur pour Julien Alaphilippe pour faire la passe de 3.
Et Patrick Lefebvre, d'ailleurs, a été très sévère il y a quelques jours avant le départ de la Vuelta en disant qu'il ne payait pas Alaphilippe pour qu'il se prépare pour le championnat du monde, mais pour qu'il aide ses équipiers. En l'occurrence, cette année, Remco Evenepoel, qui est un peu le petit chouchou du patron, hein, le Belge. On rappelle que les Belges n'ont plus remporté un grand tour depuis 44 ans, je crois. Donc, ils font de grands espoirs en Remco Evenepoel, leader, avec combien on a dit tout à l'heure, un peu plus d'une minute d'avance sur
Alors il a 21 secondes d'avance sur Rudi Mollard, 28 secondes d'avance sur Henrik Maas et 1 minute et 01 seconde d'avance exactement, Christophe, sur Primoz Roglic. Donc voilà, donc on a Rudi Mollard pour les Français deuxième, Pavel Sivakov aussi qui est sixième, 1 minute 27, c'est la meilleure chance française pour cette Vuelta.
Très bien, merci Johan, à tout à l'heure. Je vous rappelle que Kylian Jornet a remporté tout à l'heure l'UTMB, l'Ultra Track du Mont Blanc, 171 km parcourus à la distance record de 19h et je sais plus 49 minutes je crois. Il a battu 39 minutes, voilà, 19h 39 minutes pour Kylian Jornet qui remporte l'UTMB, je crois pour la quatrième fois. Il s'impose devant un Français qui a terminé, qui était à la bagarre avec lui jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée, Bouchard, mais malheureusement pour lui il a craqué dans le final. Kylian Jornet qui est l'extraterrestre de la discipline. On essaiera tout à l'heure de joindre Léna Marjac, notre envoyé spécial qui se trouve aux côtés des héros de cette course et qui continue d'arriver, hein, parce que si les premiers sont arrivés, les derniers vont mettre encore quelques heures, sinon quelques dizaines d'heures avant de rejoindre et de rallier Chamonix. 14h40 sur RMC. Dans un instant, la Ligue 2. On s'intéresse aux deux matchs qui débuteront dans 20 minutes maintenant. Bordeaux-Guingamp d'un côté, Metz-Dijon de l'autre. À tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
14h42 sur AMC, dans 18 minutes maintenant, le coup d'envoi de la cinquième journée de Ligue 2 avec deux rencontres pour débuter, Bordeaux-Guingamp et Metz-Dijon, que l'on va suivre donc en intégralité. Et puis à 19h, d'autres rencontres, notamment celle qui opposera Valenciennes à Saint-Etienne, la lanterne rouge de cette Ligue 2 qui a fait un départ catastrophique dans cette saison. Ce n'est pas le cas de l'autre relégué, les Girondins de Bordeaux qui sont plutôt pas mal depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on avait de grosses inquiétudes concernant les Girondins, savoir s'ils allaient déjà pouvoir rester en Ligue 2. Le suspense a été long à se dessiner, mais finalement les Girondins restent en Ligue 2 et pour l'instant ils sont bien installés dans cette Ligue 2. On va en parler avec Nicolas Paul Orsi, notre Bordelais à nous, Bordelais corse et parisien. Il a un peu tout à la fois. Salut Nico.
Top. Salut à tous.
Comment ça va?
Ça va et toi? Il fait très beau à Bordeaux et grand soleil parce que c'est ça la Ligue 2, c'est les matchs à 15h et c'est vraiment sympa quand même.
Oui, mais tu sais qu'on risque d'avoir bientôt que des matchs à 15h ou à 17h. Hein.
Oui, c'est vrai.
Si on veut réduire l'électricité et garder quelque énergie un peu pour chauffer les Français notamment, ben voilà, on sera peut-être obligé d'avoir que des matchs. Moi je m'en réjouis. Hein, que des matchs à 15h, 17h, 14h, ce serait le bonheur et le soir on passera des disques. Nico, Bordeaux donc, troisième de cette Ligue 2 avec une invincibilité pour l'instant, 2 victoires et 2 matchs nuls depuis le début de la saison. Voilà, c'est vrai que pourtant les conditions n'étaient pas vraiment installées pour qu'il y ait une sorte de sérénité chez les Girondins, mais finalement les joueurs et leur entraîneur ont fait fi de tout ça et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal.
Ah ben, si on se disait, s'il y a deux mois plus tôt on s'était dit que les Girondins de Bordeaux seraient sur le podium de Ligue 2 après 4 matchs, c'est un miracle parce que tu le disais tout à l'heure, les Girondins ont été autorisés à repartir en Ligue 2 seulement 3 jours avant le début du championnat. En plus de ça, ils ont eu leur masse salariale qui a été encadrée, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas recruter. Il y a des joueurs qui ont rejoint Bordeaux mais qui ne peuvent pas jouer les matchs. Ils sont seulement présents lors des entraînements parce que pour l'instant la masse salariale des Girondins de Bordeaux est trop importante et que le club a du mal à vendre. Donc du coup, ce sont les jeunes qui tiennent la baraque depuis le début de saison, des jeunes qui jouent en National 3 la saison passée, 5e division française, ou ont moins de 19 ans au niveau national, mais ce sont quand même de tout jeunes joueurs qui pour la plupart ont découvert le monde professionnel il y a un mois et demi et ils sont en train de s'imposer, de s'affirmer et de vraiment permettre aux Girondins d'espérer dans ce championnat de Ligue 2. David Guillon nous le disait en conférence de presse il y a 2 jours, c'est un petit miracle de voir ces jeunes aussi performants avec le club, écoute-le.
Le fossé est important entre la N3 et puis la Ligue 2. C'est des garçons qui n'étaient pas prêts à jouer en professionnel. Éventuellement un match comme ça. Aujourd'hui, ce sont des garçons qui sont capables d'enchaîner. Il y a eu un gros travail de post-formation pendant 2 mois. En fin de compte, ils ont vécu une formation accélérée pendant 2 mois parce qu'ils n'étaient pas prêts. Maintenant, on voit qu'ils s'épanouissent dans une organisation. Mais tout ça, c'est le fruit du travail du staff. Ce ne sont plus les mêmes joueurs qu'au mois de juin.
Ah, ce ne sont plus les mêmes joueurs qu'au mois de juin parce qu'il y a des garçons qui sont vraiment infirmés. On pense notamment à Jacques Écomier qui a 18 ans, qui joue encore à Mérignac il y a un an et demi, qui a été repéré par les Girondins et qui se retrouve sur la pelouse du Matmut Atlantique titulaire au poste de latéral gauche. Il y a plein de belles histoires en fait dans cette équipe des Girondins et on sent du coup, tu vois, que le club est reparti un petit peu de zéro. Ça a redynamisé tout un club.
Ouais. Du coup, il y a du monde au stade cet après-midi. Les Girondins sont à nouveau suivis ou alors les supporters historiques font encore la gueule?
Alors les supporters historiques sont là, les affluences sont pas mal hein, depuis le début de saison. On oscille entre 18 000 et 22 000 supporters. On attend à peu près ça cet après-midi. Bon, après il fait beau à Bordeaux, donc en général à 15h à Bordeaux un samedi quand il fait beau tu vas à l'océan, donc ça peut être un petit peu moins, mais franchement il y a du monde hein. En Ligue 2 on avait très peur de voir les supporters totalement déserter le Matmut Atlantique parce qu'il y avait un véritable désamour hein, entre les Girondins et leurs supporters, et on sent que justement le fait de revenir un peu à l'identité du club, à des jeunes du centre de formation, ça a reboosté un peu tout le monde pour poursuivre la saison des Bordelais.
Et bien tant mieux, donc du monde cet après-midi pour supporter les Girondins qui jusqu'à présent eh bien, ont affronté des équipes disons moyennes hein, Valenciennes, Niort, Grenoble ou encore Rodez. Là ça monte de niveau quand même, avec Guingamp hein, surtout que Guingamp est pas loin au classement, ils sont à un petit point derrière les Girondins seulement.
Complètement, c'est une affiche de haut tableau entre Bordeaux 3e et Guingamp 6e. Alors Bordeaux n'a toujours pas encaissé de but cette saison, donc ça va être un véritable enjeu du match face à des Guingampais qui jouent très bien au foot, même s'ils restent sur une lourde défaite lors de la dernière rencontre, 4 buts à 1 à Caen. Ce sont deux coachs, David Guillon et Stéphane Dumont, qui se connaissent par cœur parce que Stéphane Dumont était l'adjoint de Guillon à Reims. Voilà, c'est Guingamp, c'est une formation très, très offensive avec un 3-4-3, avec des joueurs de côté qui vont très très vite, donc ça va être un véritable morceau et c'est encore une fois un test au niveau supérieur pour la jeunesse bordelaise.
Très bien, les Guingampais, donc ils viennent avec quelle ambition? Ils avaient très bien débuté la saison, 2 victoires, et puis là c'est un peu plus compliqué quand même pour les Bretons, hein.
Oui, ils viennent pour se rassurer parce que la défaite à Caen, pardon, 4-1 a laissé des traces. C'est un club qui a de l'ambition. Stéphane Dumont est arrivé il y a 14 mois. Il a restructuré un petit peu tout ça. On est reparti sur un projet avec des joueurs de Ligue 2 parce que Guingamp avait peut-être un peu vécu au-dessus de ses moyens après la descente en Ligue 1. On avait eu du mal à faire la transition. Donc il a vraiment reconstruit un projet avec des joueurs de Ligue 2 à l'image de Gaëtan Courtais qui a été recruté à la CA Ajaccio cet été et qui va faire sa première titularisation, son premier match avec l'en avant Guingamp à la pointe de l'attaque bretonne. Donc voilà, c'est un club qui est très structuré. L'ambition de Guingamp sur cette saison, on nous dit que c'est de faire mieux que la saison dernière. Ils ont terminé 6e. Donc voilà, le top 5. Il n'y a pas de barrage cette année, on le rappelle. Il n'y a que de montée directe. Mais Guingamp a des ambitions dans ce championnat, ça c'est sûr.
Très bien. Et Bordeaux, l'ambition, c'est quoi? C'est d'essayer de se maintenir déjà, de reconstruire l'équipe, ou alors on envisage d'ores et déjà la remontée immédiate?
C'est difficile à dire parce que si Bordeaux avait recruté, si les joueurs qui sont au Haillan pour les entraînements avaient disputé les 4 premiers matchs, je te dirais que c'est de remonter directement. Mais là, avec cette équipe qui a 22 ans à peine de moyenne d'âge, c'est la plus jeune équipe qui a jamais été alignée en Ligue 2 par un entraîneur pendant les 4 premières journées. On peut dire que si un maintien, si ça bouge pas d'ici la fin de mercato et que Bordeaux se maintient convenablement, ça sera déjà une très belle perf.
Ok, on va voir ça et on va suivre cette rencontre donc avec toi. Le coup d'envoi de ce match entre Bordeaux et Guingamp, ce sera donc dans 11 minutes maintenant.
À tout de suite.
À tout à l'heure, Nicolas, pour cette rencontre de Ligue 2. On va s'intéresser à la deuxième rencontre dans un instant. Un tout petit point sur la Vuelta, puisque le col vient d'être effacé par les hommes de tête qui continuent d'accroître leur avance sur le peloton maillot rouge.
Exactement, 3 minutes et 50 secondes d'avance donc pour les 10 hommes en tête, dont Thibaut Pinot, qui est bien là, le Français, accompagné de deux équipiers, Bruno Armirail, l'autre Français, et Sébastien Reichenbach, le Suisse. Il y a du beau monde, Marc Soler, Jay Vine, donc ils sont dans la descente de l'Alto de la Moschetta, la descente qui va durer encore quelques dizaines de kilomètres avant un nouveau col, celui de Santo Emiliano, le troisième de la journée, le troisième sur 6, il restera 3 autres encore, montagne russe, c'est le profil un peu de cette étape pour finir sur le Coyo Fancoya, donc 10 km à 8% de moyenne et des passages à plus de 15%, donc 3 minutes et 52 secondes d'avance pour le groupe d'échappée dans lequel il y a Thibaut Pinot.
Merci Johan. Allez, on va s'intéresser donc maintenant au deuxième match de Ligue 2 qui débutera donc dans 10 minutes, qui va opposer le FC Metz à Dijon. Sébastien Ruffet est avec nous pour en parler. Salut Seb.
Salut Christophe.
Bon, on parlait de Bordeaux avec relégué avec une équipe très jeune. Metz a limité les dégâts et Metz est pour l'instant pas trop mal non plus depuis le début de la saison avec 2 victoires, une défaite, un nul. Ils sont 5e les Messins. Là aussi l'ambition, enfin là elle est affirmée, c'est de remonter directement. Hein.
Oui, comme à chaque fois, parce que Metz, ça fait partie de ces clubs qui font souvent l'ascenseur. Hein. C'est un club de Ligue 1 et demi, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire que parfois en Ligue 1, c'est un peu compliqué, mais la Ligue 2, en général, ils sont au-dessus. Alors, est-ce que cette saison, ça va se confirmer? Il y a eu beaucoup de retours de prêts. On fait confiance à ces joueurs-là. Parce que alors ça, c'était un point de crispation très clair pour Laszlo Bologna, l'entraîneur. Il l'a redit encore en conférence de presse. Il a hâte que ce mercato se termine. Il a hâte d'être au 1er septembre, qu'on arrête d'avoir la tête ailleurs, parce qu'il y a des joueurs qui font... l'objet de tractations. Voilà, on pense à Kouyaté, à Fabien Santon, ce qui est sur les tablettes du Stade Rennais par exemple, à Georges Mikotadze, des joueurs comme ça qui sont pressentis, qui ont des touches sans que ce soit forcément hyper concret pour l'instant. Donc il a l'impression que il a des joueurs qui ont encore la tête un petit peu ailleurs, alors que le championnat il a bel et bien commencé puisqu'on joue quand même déjà la 5e journée de Ligue 2. Donc il a hâte que tout ça se termine pour avoir un effectif stable, concentré sur son objectif qui est justement, tu l'as dit, la remontée en Ligue 1 avec un championnat très particulier. Encore une fois, on le redit toutes les semaines, mais deux montées directes, pas de barrage cette année. Et quand on voit la concurrence effectivement de Caen d'ores et déjà, Bordeaux effectivement qui a l'air bien lancé, Dijon aussi, l'adversaire qui vient ce soir, toujours invaincu, ça fait partie des 3 clubs qui sont encore invaincus dans ce championnat pour l'instant, avec Caen et Bordeaux. 2 victoires, 2 nuls pour les Dijonais. C'est le même départ qu'en 2014-2015 en Ligue 2. Ils avaient fini 4e à l'époque, les Dijonais. Donc voilà, c'est une équipe qui se présente, qui fait pas beaucoup de bruit. J'ai l'impression, ce DFCO, peut-être parce que l'année dernière les a un petit peu ramenés dans une sorte d'anonymat, mais il travaille bien sous la houlette d'un certain Omar Daf qui a quand même restructuré et relancé le FC Sochaux-Montbéliard. Un départ un petit peu bizarre, hein. On n'a pas toutes les infos, toutes les coulisses de ce départ d'Omar Daf de Sochaux, mais voilà, il a laissé un vide pour l'instant du côté de Montbéliard, et il fait un très bon travail pour l'instant à Dijon, cette équipe de Dijon qui vient ici pour confirmer et continuer sur cette lancée, sur cette invincibilité. Et Metz pour l'instant à domicile c'est plutôt pas mal, victoire 2-0 contre Valenciennes, victoire inaugurale contre Amiens 3-0, voilà, donc ça promet quand même, je pense, une belle affiche. On va pas s'ennuyer, on a deux beaux matchs cet après-midi à 15h. Christophe, je sais pas ce que t'en penses.
Ah oui,
mais je pense
mal,
que là la Ligue 2 a une belle vitrine cet après-midi.
Ouais, bon, tu sais bien parce que t'es quand même venu au stade, parce qu'il paraît que c'est la grande fête à Metz aujourd'hui.
Ah oui,
hein.
Ah oui, alors attention.
Raconte-moi, c'est la fête de la Mirabelle.
C'est la fête de la Mirabelle. Et ça a commencé ce matin, et c'est une des plus grosses fêtes, enfin, pas seulement à Metz, mais de vraiment tout le bassin de population, de toute la Lorraine. Ça a commencé ce matin, il y a un marché des saveurs et des arts, par exemple. Mon cher Christophe, il y a un open de Molki. En ton compte, alors je ne sais pas si tu pratiques le Molki toi-même.
Ah, j'ai vu beaucoup pratiquer ça sur la plage.
T'es plus pétanque.
J'aime bien quand ça roule, moi.
Voilà, c'est ça. Donc, open de Molki, il y aura des concerts cet après-midi au plan d'eau. Il y a la chanteuse Oshi qui sera en concert gratuit ce soir. Un feu d'artifice à 22h30 au plan d'eau. Enfin voilà, les routes sont barrées dans le centre-ville. Le boulevard Saint-Symphorien qui passe devant le stade est à sens unique. Donc il a fallu que je fasse tout le tour pour arriver par l'autre côté. Ah ben voilà, c'est vraiment aujourd'hui une grande fête, et évidemment, si le FCMS pouvait contribuer à cette belle fête, eh bien les Messins en seraient évidemment les premiers ravis.
Eh bien voilà, la fête, et malgré la fête dans les rues de Metz, il y aura beaucoup de spectateurs attendus cet après-midi donc à Saint-Symphorien, ouais, pour ce match entre Metz et Dijon, dont le coup d'envoi sera donné dans quelques minutes, dans 6 minutes très exactement. Merci Sébastien, on te retrouve évidemment dans quelques instants pour suivre cette rencontre. Nicolas Paul, alors si Sébastien Ruffet, en plus on a deux bons commentaires cet après-midi, on va se régaler. Un mot sur la Vuelta, parce que lui est pas mal aussi, le petit Johan, hein, pour nous parler de vélo et de cette huitième étape de la Vuelta.
Allez, 10 hommes en tête, il reste encore 100 km avant l'arrivée, 4 cols encore à parcourir, à franchir, donc 10 hommes en tête, dont Thibaut Pinot le français, accompagné de Bruno Armirail et de Sébastien Recheibar, ses coéquipiers chez la FDJ. On a deux vainqueurs d'étape déjà cette année, c'est Jay Vine et Marc Soler, vainqueurs de la 5e et de la 6e étape sur cette Vuelta 2022. Donc il y a du beau monde, Mikel Landa aussi le mieux classé au général, donc voilà, 3 minutes 45 secondes d'avance sur le peloton mené par les Quick Step de Remco Evenepoel qui porte le maillot rouge de leader avec 21 secondes d'avance sur Rudy Mollard, tiens, un autre coéquipier de Thibaut Pinot.
Il n'est pas dans le groupe d'échappée, Rudy Mollard, aujourd'hui.
Non, il est dans le peloton, et ça va être difficile de tenir avec une place dans le top 5 voire le top 10 après cette étape.
Il est 14h55 sur RMC, on va laisser passer les infos de 15h et on revient donc pour nos premiers lives concernant le foot Bordeaux-Guingamp et Metz-Dijon. La 5e journée de Ligue 2 débute dans un instant.
RMC Intégral Sport.